Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et en tout cas, si la semaine a été plus difficile pour vous, eh bien, je prie que la parole de Dieu puisse nous ramener à Dieu. Et en fait, j'ai pas besoin de développer beaucoup mon introduction parce que tout ce que Francis a dit, c'est en partie ce que j'allais dire. Donc merci Francis, tu m'as fait gagner 2 ou 3 minutes. Et effectivement, en ce moment, on parle, le sujet de la politique est incontournable. Chaque candidat à la présidentielle propose son programme, ses idées, ses mesures phares. On essaie de retenir tout ça, c'est pas toujours évident. Et forcément, dans un tel contexte, il faut nous poser la question, mais quelle est notre place? Quelle est notre place dans la société? Et c'est pour cela que nous avons cette nouvelle série de prédications qui porte sur le thème des chrétiens, du rapport entre chrétiens et autorité. Et comme ça a été dit également, eh bien, effectivement, cette semaine, nous avons déjà introduit le sujet par différents échanges autour de ce thème. Et Jésus lui-même n'a pas esquivé la question. Et sa réponse est devenue proverbiale. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Et tout ce que je vais dire n'est qu'une introduction à ce qui sera abordé dans les semaines à venir. Donc, si je ne dis pas tout sur le sujet, c'est normal. Il faut revenir la semaine prochaine. Mais replaçons d'abord notre texte avant de le lire dans son contexte. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, Jésus entre à Jérusalem, dans la capitale, acclamé par la foule comme étant le fils de David, c'est-à-dire comme étant le roi d'Israël. Arrivé au temple, Jésus en chasse les marchands et rappelle que la maison de Dieu est une maison de prière. Et l'opposition ne tarde pas à se manifester. Alors que Jésus enseigne au temple, les responsables religieux l'interrogent. « De quel droit fais-tu cela ? Qui t'a mandaté pour faire cela ?» Et Matthieu nous rapporte ensuite 3 paraboles de Jésus qui visent notamment ces responsables religieux. Parce que à cause de leur attitude, de leur incrédulité, le fait qu'ils ne croient pas en Jésus, à cause de leur attitude, ils n'auront pas leur place dans le royaume de Dieu. Voilà le message que Jésus leur fait passer. Et d'autres, par contre, comme les collecteurs d'impôts, comme les prostituées, auront leur place dans le royaume de Dieu parce qu'ils auront répondu à l'appel de changer de vie. Et vous pouvez imaginer qu'en entendant cela, la réaction des chefs religieux, en entendant que des prostituées, que des collecteurs d'impôts seront dans le royaume alors que eux non. Et c'est là que nous arrivons à notre texte que je vous propose de suivre avec moi dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? » Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Dans la suite du chapitre 22, d'autres adversaires de Jésus vont également lui poser à leur tour leurs questions. Et Matthieu, l'auteur de notre texte, met en évidence à chaque fois l'échec des autorités religieuses de l'époque. Aucun ne parvient à piéger Jésus, à trouver chez lui un motif d'accusation. Et Jésus lui-même posera une question à propos du Christ, et personne ne sera capable d'y répondre. Alors Matthieu conclut à la fin du chapitre, « Depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. » Et en ce qui concerne notre texte que je viens de lire, nous allons voir aujourd'hui trois éléments qui peuvent nous échapper. Une question, piège, et une réponse éclairante. Commençons d'abord par les trois éléments qui peuvent nous échapper. Environ 2000 ans nous séparent de ce qui nous est raconté dans notre texte. Et il est possible que certains détails nous échappent à cause de la distance culturelle et temporelle. Jésus a vécu dans une autre culture que la nôtre, il a vécu à une autre époque que la nôtre. Et pour comprendre certains textes bibliques, il est donc important de s'informer sur le contexte historique. Autrement, le risque serait de tordre le sens d'un texte en le lisant avec nos lunettes modernes, ou si nous n'avons pas de lunettes, avec nos yeux modernes. Et voici un peu l'instant pub que je vous propose. C'est pourquoi il est très utile d'avoir chez soi une Bible d'étude, telle que la Bible d'étude du semeur, ce n'est pas la seule, mais également de pouvoir éventuellement se procurer de manière plus spécialisée cette Bible que vous voyez à côté, la Bible avec des notes archéologiques et historiques qui explicitent un petit peu ce qui nous échappe culturellement lorsque l'on lit la Bible. Donc voilà, j'arrête avec l'instant pub, je ne gagne aucun bénéfice en vous parlant de tout ça. En tout cas, le bénéfice sera pour vous, si vous vous procurez ces outils. Et avant de nous plonger dans notre texte, j'aimerais prendre le temps d'aborder trois éléments du contexte qui peuvent nous échapper, parce que nous ignorons peut-être ces aspects culturels. Je propose de parler d'abord des Hérodiens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le texte en parle, donc il faudrait aussi être au courant de qui on parle ici. Eh bien, en fait, dans notre texte, nous avons cette délégation avec des disciples de pharisiens. Les pharisiens, c'était donc ces chefs religieux, très attachés à la loi. Et puis, cet autre groupe, les Hérodiens. Alors, comme leur nom l'indique, les Hérodiens sont les partisans de la dynastie des Hérodes. Les Hérodes qui étaient les souverains juifs de l'époque. Et vous le savez peut-être, mais dans le Nouveau Testament, il est fait mention de plusieurs personnages qui portent le nom d'Hérode. Et on pourrait se perdre au milieu de tout ça. Alors, je commence par le premier de la lignée, celui qu'on appelle Hérode le Grand. Il est connu parce que c'est le roi des Juifs, qui vivait à l'époque de la naissance de Jésus. Hérode le Grand, c'est lui. Et c'est lui aussi qui a entrepris de grands travaux pour le temple de Jérusalem. Et il faut retenir qu'il est arrivé au pouvoir grâce aux Romains. Ce sont les Romains qui l'ont placé sur le trône pour être le roi des Juifs. Et après la mort de ce Hérode le Grand, son royaume a été divisé en trois, pour trois de ses fils. Je vous propose de regarder ça à travers la carte que je vous projette. Comme vous le voyez ici sur la carte, tout en bas, Archélaos, qui règne sur la Judée et la Samarie, mais pour peu de temps. Donc, retenez cette information. Ensuite, au-dessus, au niveau de la Galilée et de la Pérée, eh bien, c'est celui qu'on appelle Hérode Antipas. Cet Hérode qui va un jour rencontrer Jésus avant sa crucifixion. Donc, quand on parle d'Hérode, un peu plus tard, c'est de lui dont on parle. D'ailleurs, ce même Hérode a bâti la ville de Tibériade. Ça vous dit quelque chose, Tibériade? Cette ville, quand on entend Tibériade, on entend quoi? On entend Tibère, l'empereur de l'époque. Cet Hérode a construit Tibériade en l'honneur de l'empereur Tibère. Et vous voyez là les liens de proximité entre Hérode et Rome. Et cette information est importante. Et puis enfin, une partie du territoire revient à un certain Philippe, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Et donc, selon plusieurs spécialistes, eh bien, les Hérodiens, donc pour revenir à eux, ne sont pas à proprement parler un parti politique, ce sont juste des gens qui sont favorables au règne des Hérodes. Et logiquement, puisqu'ils sont favorables à eux, ils sont également favorables au pouvoir de Rome. D'autres pensent qu'ils ont quand même le désir de s'affranchir du pouvoir romain et qu'ils seraient contre le paiement de l'impôt. Mais personnellement, j'aurais plutôt tendance à voir dans ces Hérodiens des Juifs qui sont pour Rome, contrairement aux pharisiens, qui étaient clairement nationalistes, donc pas du tout en faveur des Romains. Et malgré ce qui les oppose, ces deux groupes se retrouvent devant Jésus avec la même attention, le piéger. Le deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est concernant la Judée. Je vous ai dit à l'instant que l'un des fils d'Hérode, Archélaos, a régné peu de temps sur la Judée. Parce que, en effet, certains aristocrates n'ont pas supporté son côté tyrannique et sont allés jusqu'à Rome pour aller en parler à l'empereur. Et conséquence, le roi est destitué et la Judée devient alors province romaine. Et cet élément est également important, parce que qui dit province romaine dit qu'il y a la présence d'un gouverneur romain à cet endroit. Et vous le comprenez bien, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Galilée, parce que au niveau de la Galilée, c'est un roi qui gouverne. Mais au niveau de la Judée, eh bien, c'est un gouverneur romain. Et puisque la Judée est devenue une province romaine, les habitants de la Judée doivent payer des taxes. Et dans cette région d'Israël, vous pouvez bien imaginer que peu de personnes sont satisfaites non seulement d'être sous l'occupation romaine, mais en plus dans l'obligation de payer l'impôt à César. Donc, cela concerne la Judée et la Samarie, mais si vous veniez de Galilée, comme c'était le cas de Jésus, vous n'aviez pas besoin de payer d'impôt. Et donc, Jésus qui se trouve à ce moment-là à Jérusalem, et Jérusalem qui se situe donc en Judée, eh bien, vous imaginez bien que pour lui, à ce moment-là, lorsqu'on lui pose cette question sur l'impôt, eh bien, c'est une question brûlante à ce moment-là. Parce que dans la foule, beaucoup sont contre le paiement de l'impôt à César. Mais nous reviendrons à cette question un peu plus tard. Et j'aimerais parler d'un dernier aspect, d'un dernier élément qui est important aussi de connaître pour comprendre exactement l'enjeu de tout ce qui se passe entre Jésus et ceux qui l'interrogent. Concernant le denier, est-ce que vous savez ce qu'est le denier ? Eh bien, le denier, c'est une monnaie romaine, ça va de soi. Le denier qui était l'équivalent du salaire d'une journée de travail. Donc, vous pouvez imaginer la valeur de cette pièce. Alors, en principe, elle est en argent. Là, j'ai trouvé une image en or, mais peu importe, parce que ce qui compte, c'est ce que vous voyez sous les yeux. Eh bien, sur cette monnaie figurait l'image de l'empereur, que vous voyez, avec sa tête bien reconnaissable. Et puis avec deux inscriptions. D'abord, d'un côté, il est écrit « Tiber César Auguste, fils du divin Auguste ». Et puis de l'autre, « Grand pontife », c'est-à-dire « Grand prêtre ». Et il faut dire que l'empereur romain à cette époque avait un pouvoir religieux. Et donc, vous imaginez bien, si on se met à la place d'un juif qui est pieux à cette époque, qu'il n'était pas acceptable d'utiliser une telle monnaie. Et d'ailleurs, les Juifs avaient le choix, parce qu'à l'époque, circulaient plusieurs monnaies, ils pouvaient utiliser leur propre monnaie et ne pas utiliser celle de l'empereur. Alors, je vais aller encore un peu plus loin, pourquoi le denier, ici, pose-t-il problème pour les Juifs ? Bien précisément à cause de l'effigie et des inscriptions qui sont dessus. Parce que l'homme qui est représenté sur la pièce prétend être le fils d'un dieu, le fils du divin Auguste. Auguste qui était son prédécesseur, qui a été divinisé après sa mort. Or, pour un juif, il n'y a pas d'autre dieu que le dieu d'Israël. Donc, problème. Et cette monnaie était vraiment un souci pour les juifs. Un cas de conscience, on pourrait dire. Est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas ? Ça va pour l'arrière-plan historique ? Donc j'ai voulu vraiment insister sur ces trois éléments pour qu'on ait bien cela en arrière-plan. Ensuite, on va regarder les détails du texte. Eh bien, effectivement, on va s'intéresser à cette question qui est posée par les adversaires de Jésus. Et d'emblée, Matthieu, l'auteur de ce texte, met en évidence les mauvaises intentions des adversaires de Jésus. Dès le verset 15, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils espèrent qu'en posant une question piège, ils parviendront à faire dire à Jésus des propos qui pourront se retourner contre lui. Ils espèrent capter une parole qui servira de motif pour l'accuser ensuite, voire pour le condamner. Et Matthieu montre, notamment au verset 18, que Jésus n'est pas dupe du tout. Il connaissait leur malice, c'est-à-dire leur méchanceté. Et si nous avons bien saisi les véritables intentions de ces hommes, nous comprenons alors que ce qu'ils disent au verset 16 n'est que flatterie et que tout ce qui les intéresse, c'est que Jésus tombe dans leur piège. « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Et pourtant, même s'ils ne le pensent pas vraiment, ils disent vrai à propos de Jésus. Jésus est vraiment celui qui enseigne la voie de Dieu avec vérité. Et son enseignement est fiable. Et les pharisiens et les hérodiens soulignent que Jésus enseigne sans redouter personne. D'autres versions proposent de traduire « sans se laisser influencer par personne ». Autrement dit, c'est vrai, Jésus n'enseigne pas en prenant parti pour certains au détriment des autres. Son enseignement est censé être juste et équitable. Et voyez toute la fourberie de ces hommes qui lui posent alors cette question au verset 17. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Et forcément, devant cette question-là, il faut se positionner. Soit prendre le parti de ceux qui sont contre l'impôt, soit prendre le parti de ceux qui sont pour, qui pensent qu'il est permis de payer cet impôt. Donc vous comprenez bien, à la fois dans leurs paroles flatteuses, ils disent que Jésus est quelqu'un qui ne prend pas parti, et là, il leur pose une question, il lui pose une question, où il est obligé, en principe, de se positionner d'un côté ou de l'autre. Dans le premier cas, s'il défend le fait qu'il ne faut pas payer l'impôt, eh bien Jésus passe pour un leader qui incite à la révolte. Et vous imaginez bien que le pouvoir romain qui est en place n'apprécie pas trop ça. Dans le second cas, si Jésus dit « il faut payer l'impôt », il passe pour un traître aux yeux des nationalistes, de ceux qui sont contre cette taxe et qui étaient sans doute majoritaires dans la foule. Alors quand on y pense, le piège semble parfait. Forcément, Jésus va tomber d'un côté ou de l'autre. Mais notre Seigneur voit clair dans leur jeu. Et il va leur livrer une réponse inattendue et tellement éclairante pour résoudre ce problème. Et je vous propose de regarder la réponse de Jésus. Et d'abord au verset 18, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve hypocrite ?» Jésus commence par un reproche. Non seulement ses interlocuteurs veulent le piéger, mais en plus, ils sont hypocrites. Et Jésus va le montrer qu'ils sont hypocrites. Il leur demande une pièce. D'un côté, ces gens demandent s'il est permis ou non de payer l'impôt à César, et beaucoup pensent que non. Et de l'autre, ils ont dans leur poche cette monnaie. Ils disent ou pensent d'une certaine manière et ils agissent d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Comment ça se fait que ces gens ont sur eux cette monnaie ? Et Jésus ne s'arrête pas là. Il leur pose à son tour une autre question. Une question très simple. De qui sont cette effigie et cette inscription ? Et tout à l'heure, je vous ai montré l'image. En gros, cette monnaie est fabriquée par les Romains, sous l'autorité de l'empereur, et vous utilisez cette monnaie. Donc, si les Romains demandent un impôt, n'est-il pas légitime de rendre à César ce qui est à César, puisque vous utilisez cette monnaie? Et là, en fait, le piège se retourne contre ceux qui lui ont posé cette question. Et Jésus ne s'arrête pas à cette considération, mais il ajoute qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui est à Dieu ? Eh bien, tout est à Dieu. Pour certains, Jésus rappelle ici que la soumission à César, que la soumission aux autorités est une chose, mais que la soumission à Dieu est encore plus importante. Si Jésus encourage à remplir son devoir, c'est à la fois à l'égard de César, qui est l'autorité de l'époque, et à la fois à Dieu, à qui ils doivent tout. Et par cette réponse, eh bien, Jésus montre aussi que payer l'impôt à César, ce n'est pas commettre une idolâtrie, à partir du moment où il ne néglige pas de rendre un culte à Dieu seul. À l'époque où certains juifs voulaient se révolter contre l'occupant romain, Jésus n'appelle pas dans son enseignement à la révolte. Et pourtant, c'est ce pouvoir qui va le crucifier. Mais Jésus n'appelle pas à la révolte, contrairement au discours de son temps. Jésus n'est pas ce Messie conquérant qui serait venu chasser les Romains comme ses contemporains l'espéraient. Mais Jésus est venu annoncer en réalité un autre royaume, le royaume de Dieu, le royaume qu'il représente par sa personne, car précisément il est le roi de cet autre royaume. Et en Luc chapitre 17, versets 20 et 21, nous lisons ce dialogue entre les pharisiens et Jésus. Un jour, les pharisiens lui demandèrent « Quand arriverait le royaume de Dieu ?» Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. » On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. En signifiant « Je suis parmi vous, moi Jésus, et donc le royaume est là déjà. » Jésus est venu pour donner accès à son royaume précisément. Et il va aller jusqu'à la mort pour ça, la mort sur la croix pour nos péchés. Et nous avons chanté déjà à ce sujet. Rappelons-nous que c'est pour cette raison que Jésus se trouve à Jérusalem à ce moment-là. C'est l'ultime étape de son voyage avant de donner sa vie pour nous. Pour pouvoir nous donner accès à son royaume. Jésus invite donc à regarder au-delà de la seule question politique. Il s'agit de regarder à Dieu. Et Jésus n'entre pas dans le débat de savoir si c'est pour ou contre, mais il ramène à l'essentiel. Et nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que personnellement je rends à Dieu ce qui est à Dieu ? Est-ce que je lui rends gloire ? Est-ce que je l'honore dans mon quotidien comme il le mérite ? Est-ce que mon obéissance à Dieu est absolue ? Ou est-ce que cette obéissance est faite de compromis ? Est-ce que comme je me suis engagé un jour devant lui, je vis pour lui et je renonce à moi-même ? Et pour nous, la question de l'impôt n'est peut-être pas une question difficile, ni aussi brûlante qu'à l'époque. Mais par contre, sommes-nous fidèles à Dieu ? Jésus a reproché à ses interlocuteurs leur hypocrisie. Ferait-il un même reproche en ce qui nous concerne ? Et l'hypocrisie pour nous serait de venir le dimanche au culte et d'être d'une manière apparente consacré à Dieu et ensuite de retourner dans notre quotidien en menant une vie qui n'est pas en règle avec Dieu. Voilà l'hypocrisie. Et je vous expose aussi une autre interprétation qui me semble aussi intéressante et qui ne contredit pas ce que je viens de dire. Jésus a posé cette question, de qui sont cette effigie et cette inscription ? Les interlocuteurs ont dit de César. Et c'est ça qui a amené Jésus à dire, rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, rendez à César ce qui lui appartient, ce qui porte son image, son effigie. Et donc, pour certains commentateurs, Jésus fait le parallèle, le même parallèle pour Dieu. Il faut rendre à Dieu ce qui porte l'image de Dieu. Et ceux qui portent l'image de Dieu, ceux qui ont été créés à son image, ce sont l'homme et la femme. Autrement dit, Jésus serait en train d'évoquer notre dévouement à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce serait donc se donner à lui, puisque nous portons son image. Et cela fait sens aussi, puisqu'il est maître de tout. Donc Jésus n'oppose pas César à Dieu. Mais il est clair, pour tous ceux qui l'écoutaient à ce moment-là, que la soumission, l'allégeance à Dieu était ce qui comptait le plus. Et c'est pourquoi personne n'avait quoi que ce soit à dire après la réponse de Jésus. Après une telle affirmation, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Oui, effectivement, l'allégeance à Dieu est supérieure. Nous avons plus à rendre à Dieu qu'à César. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous avons plus à rendre à Dieu qu'à César. Et nous lisons dans d'autres textes du Nouveau Testament que les apôtres ont repris l'enseignement de Jésus pour affirmer qu'il est juste aux yeux de Dieu de se soumettre aux autorités. Dans le texte que nous allons lire, l'apôtre Paul utilise le même verbe « rendre ». Romains chapitre 13, verset 1. « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Et puis au verset 7, c'est là que nous avons le verbe « rendre ». Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à qui vous les devez. Le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Et Pierre également, l'apôtre Pierre, va aller dans le même sens. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu. » Et respecter le roi. Ou aujourd'hui, on dirait respecter, par exemple, le président. Je ne vais pas approfondir l'étude de ces textes, parce que nous les verrons dans les prochaines semaines. Mais gardons juste cette question avec nous. Est-ce que nous rendons vraiment à Dieu ce qui est à Dieu ? Dieu n'attend pas moins de nous. Est-ce que nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu ? Et cet après-midi, c'est l'occasion de faire le point. Et assurément, nous ne vivons pas à 100% pour Dieu. Il demande notre obéissance, mais nous sommes souvent si décevants. Mais il est toujours temps de nous engager dans cette vie où nous rendons à Dieu ce qui lui revient, sans demi-mesure, sans hypocrisie. Et dans sa grâce, Dieu nous a rachetés à grand prix. C'est lui qui nous rend capables, par son esprit qu'il nous a donné, de lui consacrer notre vie entière. C'est lui qui nous rend capables de pouvoir nous consacrer à lui. Alors je repose la question à l'église de Saint-Maur. Est-ce que nous rendons vraiment à Dieu ce qui est à Dieu dans notre vie ? Et nous pouvons raisonner en termes d'argent, en termes de temps, en termes d'obéissance, en termes de reconnaissance, en termes d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Est-ce que nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu ? Et c'est là que nous prenons conscience que c'est plus exigeant de rendre à Dieu ce qui est à Dieu que de rendre à César ce qui est à César. Cela nous demande plus. Mais c'est le plus important. La question des pharisiens et des hérodiens était vraiment une question piège. Mais notre Seigneur Jésus a magistralement bien répondu. Et c'est la leçon que nous retiendrons pour nous cet après-midi. Nous rendrons à nos autorités ce qui est à nos autorités, même si la personne qui assurera la présidence de la France n'est pas celle pour qui nous aurons voté. Et par-dessus tout, nous ne négligerons pas de rendre à Dieu ce qui est à lui. Et comme nous le lisons en Apocalypse 7, verset 12, et je terminerai par là, « À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force, pour toute éternité. Amen. » J'aimerais vous laisser un temps pour encore répondre à cette question. Est-ce que dans notre vie, nous rendons vraiment à Dieu ce qui lui revient ? Notre Père, nous voulons encore te remercier pour ta parole, parce que sans cesse tu nous ramènes à l'essentiel. Là où nous pouvons parfois nous perdre dans nos questions, parfois peut-être dans nos débats intérieurs, et peut-être même en ce moment même, nous sommes en débat avec certaines questions. Mais encore une fois, tu nous ramènes à l'essentiel en regardant à toi. Et en nous posant cette question, est-ce que effectivement toute notre vie t'est entièrement dévouée ? Et là-dessus, je plaide coupable que ce n'est pas le cas. Que bien souvent, je manque à cela. Que là où je me suis engagé envers toi, en te disant que je te suivrai, quoi qu'il arrive, que je vivrai pour toi toute ma vie, eh bien souvent, je suis en échec. Mais merci parce que, comme nous l'avons entendu, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, et non pas parce que nous réussissons à te suivre comme il faut. Et nous pouvons compter sur toi, sur ton aide jour après jour, pour persévérer comme nous l'avons chanté, pour tenir bon. Parce que, assurément, c'est toi qui nous permets de persévérer. Autrement, Seigneur, comment pourrions-nous, dans notre vie, te rendre ce qui te revient ? Et accorde-nous, Seigneur, alors que nous voulons encore nous engager entièrement à ta suite, accorde-nous, Seigneur, de discerner aussi tout ce qui concerne les questions politiques. Accorde-nous de savoir rendre à César ce qui est à César. Parce que c'est ce que tu nous enseignes, c'est ce que tu nous demandes. Mais avant toute chose, nous reconnaissons qu'à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul la reconnaissance et la puissance et le règne. Oui, merci Seigneur de t'être révélé à nous dans ta grâce, de nous avoir montré que c'est effectivement toi qui règnes, qui est au-dessus de toute autorité. Et nous te disons encore une fois, oui, nous voulons te suivre Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons vivre pour toi, parce que Seigneur, c'est ce que nous te devons, et cela, toute notre vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions ensemble. Amen.